C'est arrivé cette semaine, l'événement de la semaine analysé avec un peu de recul et de hauteur. Bonjour Bruno Cotteresse.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. On va voir avec vous donc l'événement de la semaine, c'est bien sûr cette séquence politique Macron-Castex. D'abord le chef de l'État à la télé qui renoue avec l'interview rituelle du 14 juillet, la veille donc du discours de politique générale de son Premier ministre devant l'Assemblée. Bruno Cotteresse, d'un point de vue global d'abord, s'il fallait donner une note, on sait qu'Emmanuel Macron aime bien donner des notes, en tous les cas surveiller le ministre, le travail de ses ministres avec des applis, est-ce que cette séquence vous paraît réussie ?
En partie, oui, réussi, parce que le challenge, c'était pour Jean Castex en particulier, eh bien, de se faire connaître aux yeux des Français, et pour Emmanuel Macron de justifier le changement d'un Premier ministre. C'était pas simple parce que Édouard Philippe était assez populaire à la veille de quitter ses fonctions, donc il y avait une opération pas du tout simple à mener pour Emmanuel Macron. Comment justifier, comment expliquer, motiver aux yeux des Français qu'il y avait besoin de changer un Premier ministre qui a donné le sentiment de faire face à la crise de la Covid et qui était assez populaire. Ce n'est pas une opération si simple que cela.
Emmanuel Macron, jusque-là, c'était Jupiter. Le 14 juillet, il a fait son mea culpa. Il a reconnu des erreurs, des maladresses. On a parlé de détestation à l'endroit du chef de l'État. On l'a d'ailleurs vu prise à partie par des gilets jaunes le soir même dans le jardin des Tuileries. Vous l'avez vu, il n'a pas hésité à aller à leur rencontre et à dialoguer avec eux. Bruno Cotteresse, est-ce que vous avez le sentiment que Jupiter est désormais descendu de l'Olympe et qu'il est parvenu, avec ce mea culpa, à renouer avec une image plus humaine ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait un bon moment que Jupiter essaye de redescendre sur Terre et effectivement de descendre de l'Olympe. Au fond, c'est depuis la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron fait face, dans l'opinion publique, depuis cette crise, eh bien, à une série de difficultés. On voit qu'aujourd'hui, les enquêtes d'opinion, même une fois nommé Jean Castex, ne montrent pas un rebond fort de popularité pour Emmanuel Macron. Les dernières enquêtes d'opinion le situent toujours à un niveau de popularité qui est, mettons, entre 35 et 40%. Et le nouveau Premier ministre, eh bien, c'est comme l'ancien, il est plus populaire que le président. Bon, c'est juste parce que c'est le début pour Jean Castex. Mais pour Emmanuel Macron, c'est vrai que son image s'est durcie, figée dans l'opinion publique, il y a très longtemps déjà dans l'opinion. Et on ne voit pas pour le moment, eh bien, qu'un changement de Premier ministre, qu'un changement de gouvernement suffirait à redonner aux Français une nouvelle image d'Emmanuel Macron.
Et à redorer son image. Emmanuel Macron a donc choisi Jean Castex comme Premier ministre, son accent chantant, le Premier ministre de la vie quotidienne, des gens, des territoires, comme il s'en vante. Est-ce que c'est un écran de fumée, comme le dit l'opposition ?
Non, un changement de Premier ministre correspond quand même toujours à la fois à un changement de style, à un changement dans les équipes, à un changement aussi dans les priorités de l'action du gouvernement. Ça n'est donc pas qu'un changement cosmétique, si je puis dire. Il ne s'agit pas simplement de changer un casting, mais la vraie difficulté, vous savez, pour Jean Castex et pour Emmanuel Macron, c'est que le temps leur est terriblement compté. Les spécialistes de l'action publique disent qu'ils n'auraient devant eux que 12 à 15 mois utiles, au fond, avant la présidentielle. Et il y a une contradiction entre l'ampleur de la tâche que Jean Castex s'est lui-même fixé lors de son discours de politique générale et ce temps qui lui est tellement compté.
Alors, pas de changement de cap, a dit Emmanuel Macron, mais de chemin, il joue sur les mots. En même temps, il se dit radicalement en désaccord quand on lui fait remarquer que son gouvernement penche à droite. C'est une erreur ?
Non, quand même. Au fond, quand on regarde de près la composition du gouvernement, on voit qu'effectivement, c'est plus complet qu'un simple centre de gravité au centre droit. Et il y a des personnalités politiques qui ont eu un passé à gauche. Il y a des personnalités politiques venues du centre. Il y a les personnalités politiques qui n'avaient pas fait de politique avant. Mais ce qui nous fait à tous dire que le centre de gravité est plutôt de centre droit, c'est que les positions les plus importantes, je pense à Matignon et à Bercy, sont tenues par des personnalités qui venaient des Républicains. Jean Castex était membre des Républicains il y a encore quelques jours, quelques heures, on pourrait presque dire. Et c'est ça qui fait que, eh bien, le centre de gravité est plutôt politiquement du côté du centre droit. Les Français ne s'y trompent pas d'ailleurs. Lorsqu'on leur demande de situer Emmanuel Macron sur l'échelle entre la gauche et la droite, ils le situent clairement au centre droit.
Alors, on parlait de la personnalité des deux hommes, Emmanuel Macron et Jean Castex. Est-ce que c'est l'alliance des contraires, selon vous, la ville contre la campagne, la ruralité contre la Startup Nation, est-ce que c'est le bon attelage ?
Vous savez, dans le binôme président-premier ministre de la Ve République, on a deux grands modèles. On a le modèle où le premier ministre est une sorte de presque de copie du président de la République. Il vient du même parti politique, il incarne à peu près la même chose, ils se connaissent depuis longtemps. Et puis il y a un deuxième modèle où effectivement on va jouer l'effet de contraste. Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin par exemple, et bien là on est un peu sur ce modèle effectivement où le Premier ministre essaye d'être presque un portrait inversé du président de la République, de manière à redonner au président de la République une forme un peu de hauteur, à lui les grands horizons, à lui les grands projets, au Premier ministre et bien la très dure tâche de faire face à la crise économique et sociale qui s'annonce gigantesque à la montrée.
Bruno Cotterêts, en pleine crise sanitaire devant 32 millions de Français, Emmanuel Macron avait déclaré « Sachons sortir des sentiers battus, des idéologies, sachons nous réinventer, moi le premier ». Est-ce que vous avez le sentiment que le président se réinvente ?
Il essaye incontestablement, et on l'a dit tout à l'heure, depuis la crise des Gilets jaunes, il essaye de trouver un nouveau tempo et une nouvelle incarnation de sa fonction. Donc il a essayé à de nombreuses reprises. Rappelons-nous qu'après la crise des Gilets jaunes, il en appelait un deuxième acte, l'acte 2, disait-on à l'époque. Aujourd'hui, on est à un nouveau chemin. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est pas vraiment qu'il veuille se réinventer, mais la difficulté, c'est surtout que les Français adhèrent à cette réinvention. Et puis on a quand même trois actes. En trois ans, ça commence à faire beaucoup.
Je fais appel au politologue que vous êtes, connaisseur de l'histoire politique de la 5e. Pendant son interview du 14 juillet, on a vu Emmanuel Macron parfois avoir des gestuels un peu à la Mitterrand, vous savez, une main sur l'autre, mais aussi faire référence à De Gaulle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour nous dire que le pays pouvait être rebâti en 10 ans. Il est bien là dans son rôle de chef de l'État, c'est ça que les Français attendent. Est-ce que ça suffit ?
Alors ça ne suffit pas, bien évidemment. Vous savez, la figure du président de la Ve République, elle est effectivement terriblement marquée, cadrée pour tous les successeurs par la figure mythologique du fondateur, le général de Gaulle, et puis après par la figure aussi de François Mitterrand. Jacques Chirac aussi. Donc on voit qu'ils essayent tous de capter une partie de ce qu'ont représenté ces personnages qui sont devenus de véritables mythes de la Ve République. Mais c'est souvent un peu voué à l'échec parce qu'on ne s'invente pas au fond François Mitterrand ou Charles de Gaulle en 2020 comme ça aujourd'hui. Ça correspond à toute une autre époque évidemment. Mais Emmanuel Macron a compris que les attentes des Français sur la figure du président de la République, c'est d'essayer d'incarner à la fois le père de la nation, l'unité nationale, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a pour le moment une image qui est une image assez clivante. Dans les enquêtes d'opinion, lorsqu'on demande les caractéristiques d'Emmanuel Macron, ça n'est pas celle de rassembleur que les Français lui attribuent en numéro 1.
Une dernière question, Bruno Cotterêts, elle concerne la fracture entre la classe politique et les Français, justement. Abstention record aux dernières municipales, Emmanuel Macron qui reconnaît ne pas avoir su rapprocher les Français des dirigeants. Comment on réconcilie la population avec la classe politique d'ici 600 jours ?
C'est une œuvre de très longue haleine. 600 jours n'y suffiront pas, bien évidemment. Vous savez, nous réalisons au CEVIPOF toutes les années notre baromètre de la confiance politique. Il existe depuis 11 ans et depuis 11 ans, il documente le gouffre qui sépare une partie de la population de la classe politique, de la politique en général. Il y a une partie des Français qui a presque fait sécession aujourd'hui avec le modèle démocratique. Très forte abstention, doute sur les hommes et femmes politiques ressentis comme peu empathiques, comme uniquement centrés sur eux-mêmes. Il y a là un enjeu considérable et un travail de longue haleine qui va attendre sans aucun doute plusieurs Merci. Gouvernements successifs.
Merci Bruno Cotterêts pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Bonne journée à vous.